Il y a quelques heures, mesdames, messieurs, je m'étais permis de prendre rendez-vous en votre nom avec le poète genevois Gilbert Trollier, directeur de la revue Présence et lauréat du prix Guillaume Apollinaire, ainsi que nous l'avons brièvement évoqué dans notre émission d'actualité Micro Partout. Gilbert Trollier est là, c'est pourquoi je vous propose une sorte d'entracte poétique, un entracte poétique où d'ailleurs on ne s'écartera pas beaucoup des tendances de cette soirée, puisque dans l'œuvre de Gilbert Trollier, la musique, celle des mots sans doute, a sa toute bonne part. Gilbert Trollier, vous attachez une importance particulière à la musique que vous ne séparez pas de l'image.
Certainement pas, je pense que la musique est un élément essentiel de toute poésie, conformément d'ailleurs à la tradition de la poésie traditionnelle et classique française, celle de Racine, même de Villon, de Mallarmé, de Baudelaire, de Paul Valéry.
Vous lancez le mot de Baudelaire dans la conversation. J'aimerais reprendre dans La Bonne Fortune. Vous avez un poème que, pour ma part, j'aime beaucoup, qui s'appelle « Nul poète n'est plus ». Vous dites « Nul poète n'est plus de la race des anges. Sur un socle d'airain, beauté, comme tu changes, comme tu sais donner et corrompre le là, comme tu sais sourire, aimer, n'être plus là. » Je te vois tour à tour éloquente et muette, je te crois oublieuse et ton désir me guette. Je te chante et tu fuis, je te nargue et tu viens afin d'être enchaîné et tu me tends les liens. Il y a donc eu à un moment donné, puisque La Bonne Fortune est de 1942, une certaine tendance baudelairienne dans votre œuvre.
Assurément, je crois, comme ce fut le cas d'ailleurs pour la plupart des poètes français de l'heure actuelle, toute poésie digne de ce nom aujourd'hui procède essentiellement de Baudelaire, dans certains de ses accents.
Et pourtant, votre œuvre est extrêmement diverse. Je crois qu'il ne faudrait pas que nos auditeurs, qui ne la connaissent peut-être pas nécessairement tous, supposent que vous êtes cristallisé sur une forme déterminée. Vous avez évidemment évolué jusqu'à la colline qui vous a valu le prix Guillaume Apollinaire.
Oui, La colline est un poème qui me fut dicté par l'événement en grande partie, c'est-à-dire par la menace atomique régnant sur notre planète. Et ce poème résume les angoisses qui peuvent être celles de l'humanité par rapport à cette prodigieuse éclosion de la science moderne qui d'ailleurs porte en elle-même sa menace.
C'est donc bien dire que vous réfléchissez. La poésie, pour vous, n'est pas un acte onirique et débridé, et comme l'entendent peut-être certains jeunes poètes d'aujourd'hui.
Non, assurément pas. La poésie est une sorte de totalité. Elle tend à rejoindre une totalité humaine, et elle fait appel aux facultés de l'homme, tant intellectuelles que psychologiques, morales, et esthétique.
On retrouve tout cela tout au long de votre œuvre d'ailleurs, mais à propos de La colline, où je voudrais quand même rester pendant quelques instants, Jean Cassou, dans sa préface, a cité un des vers fameux de Valéry, « Aux récompenses après une pensée ». Donc il y a eu à la base une pensée qui vous a déterminé, qui vous a poussé peut-être, qui vous a tiré vers cette expression poétique-là.
Je crois qu'il y a une double pensée en quelque sorte. Il y a d'une part une méditation intérieure qu'on pourrait taxer d'ontologique par rapport au thème philosophique de ce poème. Et d'autre part, je crois que ce poème est déterminé par l'événement, par la menace atomique dont nous parlions tout à l'heure. Il s'agit en somme d'un cri de protestation de la conscience contre cette menace et d'un acte de foi en l'avenir de l'homme.
Mmh. Cet acte de foi, vous l'avez placé sous un signe fort intéressant. En exergue de votre livre, vous avez dit « Nous venons trop tard pour les dieux ». Vous avez repris cette phrase de Martin Heidegger.
Oui, j'ai repris là une sentence de Martin Heidegger qui m'a paru parfaitement actuelle sous l'angle du problème qui se pose à nous aujourd'hui.
Mais néanmoins, vous avez su chanter les réalités tangibles de l'existence, agréables même. Dans certains de vos poèmes, je pense à Origine, par exemple, dans La Bonne Fortune.
Oui, si vous voulez, je puis vous le lire.
Très volontiers.
Origine. Voici, voici, chose lente, voici l'aurore des temps. La femme, l'oiseau, les plantes, l'eau rapide, le printemps. Descendez, souriez toutes. Nous avons jusqu'à demain, nous prendrons toutes les routes futures du genre humain. Rien n'est encore impossible en ce monde inachevé. Voici le bonheur sensible tel que nous l'avons rêvé.
Cette pensée poétique a donc une richesse très grande dans le vocabulaire. Vous attachez, après nous avoir dit ce que vous pensiez de la musique, une grande importance aux mots.
Et certainement, la poésie est faite de mots.
C'est une vérité première, mais enfin, il n'est pas inutile de la reprendre.
Elle est faite plus de mots que d'idées, de
thèmes. Vous croyez ?
Certainement, la poésie est faite de mots.
Mais plus de mots que d'idées.
Certainement, d'ailleurs, idées et mots sont conjoints et ne se différencient pas dans l'acte poétique, je crois.
Ah, je ne sais pas que vous dire, Gilbert Trollier, parce que je pense à certains jeunes poètes modernes qui nous jettent en vrac des mots, mais il n'y a pas d'idées.
Oui, mais il s'agit de mots en liberté, précisément, de mots, je crois, qui ne sont pas maîtrisés, qui ne portent pas leur poids d'humanité, leur poids concret, leur poids d'existence, et qui ne sont en quelque sorte pas promus à l'existence.
D'ailleurs, on pourrait discuter si c'est vraiment de la poésie, en réalité, mais ça nous éloignerait peut-être un peu de notre sujet.
Il y a là certainement de la poésie, je crois que la poésie actuelle, la poésie moderne, se traduit par un chaos très considérable, la poésie d'aujourd'hui se cherche.
Mais vous-même, vous êtes un poète discipliné.
Je suis un poète qui,
un faux sage,
qui se réclame en quelque sorte de
dans
la
le sens
tradition,
de la
mais j'estime que la tradition est toujours en devenir, la tradition est toujours en marche. Et un poète appartient à son temps, appartient également à la tradition et à ses maîtres et à l'avenir.
Vous-même, est-ce que vous ne vous dégagez pas parfois de ce temps pour en tirer certains prolongements, en remontant éventuellement dans le passé ou en plongeant violemment dans le futur ?
Oui, je crois que la poésie est un acte de foi à l'avenir, par conséquent elle plonge dans le futur. Elle est aussi une ressouvenance, elle est aussi une évocation de l'origine profonde. Et ce mot origine est particulièrement mystérieux d'ailleurs. Il a une portée, un caractère philosophique, il a une portée en soi. Et la poésie évidemment est du présent, mais elle tend vers l'avenir et elle s'appuie, elle entraîne avec elle le passé.
Est-ce que ça ne serait pas à cause de ça qu'elle est lyrisme ?
Elle est lyrisme précisément par cet acte de présence auquel je viens de faire allusion.
Mais la réalité poétique, pour vous, Gilbert Trollier, je me demande si elle n'est pas d'abord une réalité intérieure.
Certainement, mais je crois que la réalité intérieure détermine le monde dans lequel nous sommes plongés. Je me rappellerai à ce sujet une phrase, une sentence d'un écrivain français dont le nom m'échappe en ce moment, qui a déclaré ceci, l'univers est notre pensée intime. Et dans ce sens, on peut concevoir que l'univers est précisément notre monde intérieur, qu'il n'y a pas rupture, qu'il n'y a pas échec du monde intérieur par rapport au monde extérieur. Le monde intérieur est entraîné, le monde intérieur est en somme déterminant, il détermine la réalité telle que nous la connaissons.
Je brûle d'envie, mon cher ami, de dire quelque chose d'épouvantable, d'épouvantablement prud'homesque. Je me demande si vous ne pensez pas avec les yeux du cœur. Vous voyez si je suis arbitraire dans mes expressions.
Mais je crois que c'est
enfin, nous sommes en
train de
parler de
poésie. C'est plutôt un hommage que vous rendriez à la poésie en disant cela. Je crois que la poésie est affaire du cœur avant d'être affaire de la pensée et de l'esprit. Et les yeux du cœur est une image poétique qui me permet de rendre hommage à votre conception personnelle du monde poétique.
Pour finir, c'est moi qui vais me faire interviewer Gilbert Trollier. Mais néanmoins, ce cœur est parfois gai, il est parfois léger. Et je songe à La balle au bon, ces chansons que vous avez écrites et sur lesquelles Pierre Vismer a mis une musique.
Oui, les chansons de La balle au bon remontent à plusieurs années déjà. Ce sont des poèmes légers. Et le titre de ces poèmes correspond d'ailleurs à l'humeur dans laquelle ils ont été écrits. Ce sont des poèmes véritablement saisis au vol. Je m'en étais expliqué dans une petite préface que j'avais dédiée au poète Pierre Reverdy, qui lui-même avait déjà utilisé ce titre de La balle au bon. Et j'y avais déclaré ceci. L'auteur fort tardivement s'est avisé que le titre de cet ouvrage appartenait de longue date à Pierre Reverdy, lequel, avec beaucoup de générosité et de bonne grâce, consent que nous en disposions à notre gré. Le recueil doit à cette carence si sympathique du sens de la propriété, de ne rien altérer de son motif initial, et ainsi de pouvoir se donner tout uniment pour ce qu'il est, une brassée de chansons surgies de rien ou saisies au vol, balle au bon.
Eh bien, nous allons saisir au vol, nous, une de ces chansons qui est interprétée par Pierre Mollet, donc sur une musique de Pierre Vismeyre. Dans cette chanson, ou dans ce poème, comme on voudra, Gilbert Trollier, vous avez glissé une image, ma robe où se mire la France. Cette France à laquelle vous avez toujours été attaché, qui vient donc de vous récompenser par le prix Guillaume Apollinaire. Vous avez cultivé la poésie à Paris.
Oui, j'ai vécu à Paris quelques années avant la guerre, et la France, pour un écrivain de la Suisse romande, est évidemment...
Le pôle d'attraction.
Le pôle d'attraction, d'une part, mais également le tronc même de notre enracinement dans la réalité du langage et de notre art.
Ce qu'il y a de sympathique, malgré tout, c'est que les poètes de chez nous, dont vous êtes, ne se laissent pas dépersonnaliser par cette expression française.
Je ne crois pas qu'il y ait menace de dépersonnalisation. Le poète roman et le poète français ne sont pas séparés par un abîme. Je ne pense pas que la poésie romande puisse se distinguer essentiellement de la poésie française. Toutes deux appartiennent à leur origine commune, à leur arbre commun, qui est la poésie d'expression française, qu'elle soit belge, suisse, canadienne ou française.
Et un poète suisse, Blaise Cendrard, pris non plus comme romancier, mais bien comme poète, va nous ramener à Guillaume Apollinaire.
Cendrard a exercé une forte influence d'ailleurs sur Guillaume Apollinaire. Il était, je crois, son contemporain. Il devait avoir le même âge, sensiblement. Et je suis certain que l'influence de Cendrard sur Apollinaire n'a pas encore été dégagée suffisamment. Et qu'elle fera l'objet, un jour ou l'autre, de certaines mises au point fort utiles.
À propos de mise au point, vous nous en amenez une fort intéressante, Gilbert Trollier. J'ai dit tout à l'heure que vous dirigiez la revue Présence, qui a succédé à la revue de Suisse, dont vous avez été le directeur littéraire. Or, dans un numéro de la revue de Suisse, celui du 30 avril 1952, il était question des ancêtres helvétiques de Guillaume Apollinaire. On a enfin trouvé qui était son père.
En effet, Guillaume Apollinaire était d'origine grisonne par son père, qui appartenait, je crois, à la milice de la cité du Vatican, où il détenait un poste très important.
Et c'est ce Vatican qui a créé une certaine confusion à propos du prélat...
Oui, on a attribué la paternité d'Apollinaire à un prélat cardinal qui n'était en somme que son oncle adoptif. Apollinaire a été élevé par cet oncle, éduqué par lui.
Et cet oncle était d'ailleurs un véritable oncle, c'était plus qu'un oncle adoptif,
un des membres de la famille Flugy d'Aspermont, souche du nom des Flugy.
Souche éminemment grisonne, puisqu'elle est originaire de Saint-Moritz. Enfin, elle est aussi, je me permets d'ouvrir une toute petite parenthèse, elle est aussi néerlandaise, puisque une branche de cette famille s'est fixée aux Pays-Bas et que l'actuel consul des Pays-Bas à Genève s'appelle M. Flugy, non plus d'Aspermont avec des apostrophes, mais Van Aspermont.
Oui, très bien, tout à fait. C'est une branche émigrée des Flugy d'Aspermont aujourd'hui néerlandaise.
Alors il ne tient qu'à une question de famille, dans le fond, et de reconnaissance et d'acquiescement par la famille que Guillaume Apollinaire ne se soit appelé Guillaume Apollinaire, puisque c'était ses deux prénoms, non plus de Kostrovitsky, mais Flugif en Aspermont.
Oui, c'est assez curieux. Il a tenu à ce pseudonyme d'Apollinaire, et, qui est d'ailleurs un très beau nom. Mais je crois qu'aujourd'hui, la question de sa paternité est posée une fois pour toutes. Elle figure dans les annales de la littérature et de la poésie.
Vous venez de nous dire, Gilbert Trollier, qui est d'ailleurs un très beau nom à propos de celui de Guillaume Apollinaire, il est de toute évidence que ce très beau nom récompense un très beau prix, une très belle œuvre, la vôtre. Merci d'avoir bien voulu venir nous en parler.